VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 30 mai 2016, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Jean-Roger Bion. Tout d'abord, les titres.
Verdict attendu aujourd'hui à Dakar au procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré, jugé pour crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de torture.
Au Mali, 5 casques bleus togolais de la MINUSMA tués dans une embuscade.
Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle en RDC, est arrivé à Londres ce week-end après avoir quitté son hôpital à Johannesburg.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari promet de relancer le programme d'amnistie pour les militants du delta du Niger.
Le négociateur en chef de l'opposition syrienne Mohamed Dallouche a annoncé dimanche soir sa démission.
Ici aux États-Unis, commémoration du Memorial Day, journée nationale du souvenir pour les soldats tombés au champ d'honneur. Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
C'est aujourd'hui que doit tomber le verdict au procès de l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré, qui se tient devant les chambres africaines extraordinaires basées à Dakar, au Sénégal. Ce sera l'aboutissement d'une très longue bataille juridique engagée contre Hissène Habré, qui vit en exil à Dakar depuis sa chute en 1990. À N'Djamena, retrouvons notre correspondant André Kodmajinga.
Hissène Habré, troisième président de la République du Tchad, a dirigé le pays de 1982 à 1990 à la faveur d'un coup de force, la rébellion qui a renversé son prédécesseur Gougouni Wédéye. Le 1er décembre 1990, il a été à son tour chassé du pouvoir par Idriss Déby, alors colonel de l'armée, qui était entré en rébellion. Son règne, qualifié de répressif et de dictatorial, a marqué l'histoire du Tchad indépendant par une mise en place d'une police politique, la célèbre DDS, Direction de la Documentation et de Sécurité. Hissène Habré est accusé de violations graves des droits de l'homme et des libertés individuelles, d'actes de torture, d'exécution, de crimes de guerre, bref, de crimes contre l'humanité.
C'est un procès important pour toute l'Afrique et pour tout le tiers-monde, parce que par le passé, ces médiocres dirigeants assassinent, pillent, torturent leur population et se réfugient quelque part et passent avec l'argent volé des moments agréables.
Maître Mohamed Hassan Abakar, président de la Commission nationale d'enquête sur les crimes et détournements de l'ex-président Hissène Habré, il loue le courage des victimes qui ont tenu jusqu'au bout.
Je loue beaucoup la ténacité de ces victimes qui ont toujours espéré que Habré doit être jugé. C'est grâce aussi, en grande partie, au soutien de Human Rights Watch et d'autres organisations de droits de l'homme qui ont rendu possible le jugement d'Hissène Habré.
André Kodmajinga de N'Djamena. Les victimes tchadiennes attendent avec beaucoup d'intérêt le verdict d'aujourd'hui, nous dit un autre notre correspondant dont vous pouvez entendre le reportage dans son intégralité, y compris les réactions et attentes des victimes sur notre site voafrique.com. Nous aurons également, en seconde partie, un reportage de notre correspondante à Dakar, Sokhna Natambaye, sur la décision attendue des chambres africaines extraordinaires.
Au Mali, 5 casques bleus togolais de la MINUSMA ont été tués dans une embuscade dans la localité de Sévaré. Quelques jours auparavant, 5 soldats maliens avaient été victimes d'un engin explosif sur l'axe Menaka-Ansongo. Selon notre correspondant Kassim Traoré, embuscade et engin explosif sont devenus les nouvelles méthodes d'attaque des terroristes sur le terrain.
Le dimanche 29 mai, dans les environs de 11h, un convoi de la force MINUSMA a été pris dans une embuscade à 30 km à l'ouest de Sévaré, sur l'axe Tenenko-Sévaré. Selon les premières informations, 5 casques bleus ont été tués. Les 5 sont du contingent togolais basé dans la région de Mopti. Un autre soldat a été grièvement blessé. La MINUSMA a présenté ses condoléances aux familles des victimes, à leur gouvernement et à leur peuple, tout en souhaitant prompt rétablissement aux casque bleu blessé. 2 jours avant cette attaque, 5 soldats maliens ont été tués sur la route Ansongo-Menaka. Leur véhicule a sauté sur une mine. Ces soldats maliens escortaient du carburant vers Menaka. Les actes criminels de ces gens sont devenus le quotidien des casques bleus et des militaires maliens basés au nord du pays. Il est à signaler que pendant le seul mois de mai, les soldats maliens ainsi que les militaires de la MINUSMA ont perdu chacun au moins une dizaine de soldats. Pour la MINUSMA, c'est la zone de Kidal qui demeure la plus dangereuse, alors que les soldats maliens ont perdu plus d'hommes dans la région de Gao. Une situation qui inquiète aujourd'hui le Mali et ses partenaires. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Moïse Katumbi s'éloigne davantage de la République démocratique du Congo. L'ex-gouverneur du Katanga et candidat déclaré à la présidentielle est arrivé à Londres ce week-end après avoir quitté l'hôpital de Johannesburg où il recevait des soins. Anne Alberson nous en dit plus.
L'un des avocats de M. Katumbi, Georges Kapiamba, a confirmé à l'AFP que son client se repose dans la capitale britannique depuis samedi, un jour après son départ d'Afrique du Sud. Une source proche indique qu'il pourrait se rendre bientôt en France, en Belgique et en Allemagne. Cependant, a poursuivi Maître Kapiamba, Moïse Katumbi rentrera dans son pays à une date ultérieure. La femme du candidat, qui était aussi à Johannesburg, est d'ailleurs revenue à Lubumbashi, apprend-on de même source. Moïse Katumbi est poursuivi par la justice congolaise dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires étrangers, accusation qu'il a toujours démentie, arguant qu'il s'agit d'une persécution politique. Le richissime propriétaire du tout-puissant Mazembe a quitté la RDC suite à plusieurs convocations au parquet de Lubumbashi et à des sorties musclées de la police contre ses partisans, dont plusieurs ont été interpellés. Le 24 avril, quatre proches de M. Katumbi, dont un Américain, avaient été arrêtés à Lubumbashi et transférés à Kinshasa. Selon ses proches, même à l'hôpital, ils ne se sentaient pas en sécurité.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé hier qu'il allait relancer le programme d'amnistie pour les militants du delta du Niger en vue de mettre un terme aux attaques qui frappent les infrastructures pétrolières et menace la production d'or noir. Muhammadu Buhari a justifié son revirement par la nécessité d'une solution durable aux violences qui affectent la région pétrolière du delta du Niger.
Il ne sera pas possible de repêcher avant au moins 12 jours les boîtes noires du vol Paris-Le Caire d'Égypte Air qui s'est abîmé en Méditerranée avec 66 personnes le temps qu'un navire spécialisé arrive sur place. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP des sources proches de l'enquête. L'Airbus A320 a soudainement disparu des écrans radars en pleine nuit le 19 mai avant de tomber en mer entre la Crète et la côte nord de l'Égypte pour une raison encore indéterminée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le négociateur en chef de l'opposition syrienne, Mohamed Alouche, a annoncé hier soir sa démission, raison évoquée, l'échec des négociations et la poursuite des bombardements du régime de Bachar al-Assad sur les zones rebelles. Chérubin Dorsil.
Mohamed Alouche dirige l'armée de l'islam, un des plus influents mouvements rebelles en Syrie. En annonçant sa démission hier, il a reproché à la communauté internationale ce qu'il considère comme son inaction face aux attaques de l'armée de Bachar al-Assad soutenue par Moscou. « Je proteste contre la communauté internationale en espérant qu'elle prenne au sérieux le sang des Syriens qui est versé en raison du régime et de ses alliés », a-t-il dit. Sa démission intervient trois jours après que l'émissaire de l'ONU en Syrie, Staffan de Mistura, a indiqué au Conseil de sécurité qu'il n'envisageait pas de nouveau pour parler de paix concernant la Syrie avant deux ou trois semaines. Autre raison évoquée, la situation humanitaire qui a été fortement affectée par les combats, notamment dans le nord et non loin de la capitale. Par exemple, Damas refuse l'arrivée de l'aide dans des villes comme Daraya, assiégé depuis 2012. L'opposition syrienne veut le départ du président Assad, alors que le régime insiste pour qu'il fasse partie de tout projet de transition. Pour rappel, la guerre en Syrie a fait plus de 280 000 morts et des millions de déplacés.
Gary Johnson, un politicien plutôt obscur, a été nommé candidat du Parti libertarien à la présidentielle américaine de novembre. L'investiture de cet ancien gouverneur républicain du Nouveau-Mexique a retenu l'attention parce que cette année, une grande majorité d'Américains disent avoir une opinion défavorable des favoris des deux grands partis, le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton. Johnson, dont le colistier sera l'ex-gouverneur du Massachusetts, William Weld, est crédité dans un récent sondage de 10% des intentions de vote face à Trump et Clinton.
Pendant ce temps, à Washington, à l'occasion du Memorial Day, l'hommage de l'Amérique aux soldats qui sont tombés au champ d'honneur, le Rolling Thunder, traditionnelle parade des motards, a été transformé hier en meeting politique pour Donald Trump. Le candidat probable du Parti républicain à la présidentielle de novembre s'est de nouveau engagé à reconstruire les forces armées américaines qui, selon lui, ont été décimées. Depuis 1988, un grand rassemblement de motards, dont beaucoup d'anciens combattants, est organisé à Washington pendant le long week-end de Memorial Day, la fête nationale du souvenir pour les soldats qui sont morts pour l'Amérique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, suivez VOA Afrique.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Banque Atlantique, filiale du groupe marocain Banque Centrale Populaire, a été élue meilleure banque d'Afrique de l'Ouest lors de la soirée des African Banker Awards à Lusaka, en Zambie, rapporte Financial Afrique. Présente dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest, elle joue un rôle important dans le financement de gros projets, notamment les campagnes agricoles. Le FMI va fournir une assistance technique à la Somalie pour la première fois en près d'un quart de siècle afin d'aider à la reconstruction du pays, indique l'AFP. Cette mission marque une nouvelle étape du rapprochement entre le FMI et la Somalie après la reprise en 2015 des audits annuels de l'institution dans le pays pour la première fois en 26 ans. Le FMI reste toutefois dans l'impossibilité de prêter de l'argent à la Somalie en raison des 328 millions de dollars d'arriérés de paiement. Le ministère gabonais de l'économie numérique et de la Poste envisage un partenariat avec la Poste du Maroc. Le ministère a indiqué que le PDG de la Poste gabonaise, Michel Adandé, et son homologue marocain Amine Geloun-Toumi se sont entretenus avec le ministre Pastor Ngoua Némé sur de nombreux aspects visant à favoriser dans les plus brefs délais la mise en œuvre d'un plan de redressement.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football en Europe et cette consécration pour Zinedine Zidane.
Oui, il n'a pas traîné pour remporter son premier trophée. 5 mois après sa prise de fonction sur le banc du Real Madrid, Zidane a guidé son club à la victoire en Ligue des Champions en dominant en finale son rival de l'Atlético au tir au but 5-3. Un but partout après les 120 minutes de jeu. C'est la 11e fois que le club est titré dans l'histoire de la compétition. La 2e fois en 3 ans.
Sur le continent, quelques sélections sont en rodage à quelques jours de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017.
Avec plusieurs matchs amicaux, la victoire du Sénégal au Rwanda 2-0. Même score pour la Mauritanie face au Gabon. De même pour le Maroc qui a dominé le Congo. Notons le service minimum du Togo devant la Zambie. Avec le premier match officiel du Claude Leroy à la tête des épaviers. 1-0 également pour le Nigeria contre le Mali et puis le Kenya a été accroché à domicile par la Tanzanie, 1-0. Suite de ces rencontres amicales ce lundi, la Gambie reçoit la Zambie à Bakou et puis le Cameroun qui joue la France à Nantes.
On reste sur le continent pour faire le point de quelques championnats de première division.
Oui Idrissa, 16e journée en Côte d'Ivoire et la SEC s'offre le stade dans le derby d'Abidjan. Score 2-0. Ce succès permet au Mimo de prendre la 2e place avec 25 points. À 3 longueurs du leader, l'AS Standard accroché à domicile 0-0 par Moussou. 16e journée également au Gabon et le CF Mounana, vainqueur de l'USO 2-0, profite du nul 0-0 de Manga Sport à Port-Gentil contre le Canon 105 pour prendre la tête du classement avec 36 points. Au Cameroun, l'UMS conforte sa première place à l'issue de la 18e journée. Le club de Lune a eu raison du Canon de Yaoundé 3-1. En RDC, 10e journée des playoffs et le classique du foot congolais entre le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club a tourné à l'avantage des Corbeaux, vainqueur 2-1. Et puis, direction Tunisie pour terminer 28e journée de la Ligue 1 à 2 journées de la fin de l'épreuve. L'Étoile du Sahel est toujours leader avec 111 points suite à son match nul 1-0 face au Stade Gabessien. 2e et à 2 points du leader, le club sportif sfaxien est allé battre le club africain 3-2. Et puis, l'Espérance de Tunis garde sa 3e place. Les 100 et or qui totalisent 68 points sont sortis victorieux 2-1 de leur déplacement à Zarzi.
Et pour terminer, Élisée, un mot sur la NBA. D'abord, les jeux sont faits entre Toronto et Cleveland, l'équipe de LeBron James, en finale pour la 2e année consécutive. Quant à l'équipe que les Cavaliers affronteront le 2 juin à Cleveland, ce sera décidé ce soir quand les champions en titre, les Golden State Warriors, rencontreront dans leur salle à Oakland les Thunder d'Oklahoma City.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. Le tribunal spécial africain qui juge l'ex-président tchadien Hissène Habré à Dakar pour crime contre l'humanité rend son verdict aujourd'hui au terme d'un procès inédit censé servir d'exemple en Afrique un quart de siècle après sa chute. Ce procès devant les chambres africaines extraordinaires, mis en place en vertu d'un accord entre le Sénégal, où Hissène Habré vit en exil depuis décembre 1990, et l'Union africaine, a débuté le 20 juillet 2015. Il s'agit assurément d'une première en Afrique, un ancien président africain jugé sur le continent même. Retour sur quelques faits marquants de ce procès historique avec notre correspondante à Dakar, Sorna Natambay.
Jamais procès n'a été aussi violent dans les actes et les paroles. Le jugement de Hissène Habré, qui a débuté le 20 juillet 2015 à Dakar, a capté l'attention de plusieurs pays. Le Tchad tout d'abord, qui a fait des pieds et des mains pour que le procès se tienne. L'ancien chef d'État, jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, n'a pas néanmoins rendu la tâche facile aux chambres africaines extraordinaires. C'est par la force qu'il a été traîné les premiers jours jusque devant la cour. On se rappelle la colère d'un des avocats de Habré, Maître François Serre.
On est dans une situation de violence absolue. Le président Kam, aujourd'hui, s'est inscrit dans un processus de mensonge. Le président Kam a menti en prétendant que le président Habré avait été amené de son plein gré au tribunal et qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne venait pas dans la salle. Je constate que les avocats d'office se font les complices de l'accusation en prétendant qu'ils n'ont rien à voir là-dedans.
Ces conseils n'ont pas voulu prendre part au procès qu'ils ont qualifié de grosse farce. Deux avocats sont donc commis d'office à l'accusé. Durant les 4 mois qu'a duré le procès, victimes et experts se sont succédés à la barre. Les uns racontant les horreurs vécues au fond d'une cellule, les autres décrivant la découverte de fosses communes, entre autres. Clément Abefouta, président de l'association des victimes du régime de Hissène Habré.
Aujourd'hui, dans le monde entier, nul ne peut ignorer l'étendue des horreurs que le peuple tchadien a subies de 1982 à 90.
Et qu'en est-il de l'attitude de l'accusé? Il n'a pas changé une virgule de ses habitudes. C'était presque tous les jours, vêtements blancs, turban blanc. On apercevait à peine ses yeux. Les rares sons qu'il a émis de sa bouche sont « corrompu, taisez-vous », entre autres, en s'adressant au président de la cour. Depuis son arrestation, c'est-à-dire avant même l'ouverture du procès, l'épouse d'Habré avait déclaré à qui veut l'entendre qu'Idriss Déby, actuel président tchadien, avait orchestré cette parade judiciaire. Fatima Raymond Habré a également accusé des autorités sénégalaises, une certaine presse, mais aussi les chambres africaines extraordinaires d'être à la solde de puissances étrangères et surtout d'Idriss Déby. D'ailleurs, c'est une rencontre entre Idriss Déby et Maître El Hadj Diouf qui a valu un renvoi à l'avocat. Pendant des années, c'est lui qui défendait Habré. Mais maintenant, c'est terminé. À l'issue des auditions et des plaidoiries, le procureur Makefal a requis l'emprisonnement à perpétuité assorti de la confiscation de tous les biens de Habré. C'est lundi 30 mai. Le Sénégal, le Tchad, le monde devraient connaître le sort réservé à l'ancien président tchadien. Sorna Natambay, Dakar, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
La jeunesse, fer de lance de l'intégration politique et socio-économique de l'Afrique de l'Ouest, tel était le thème de la rencontre des jeunes économistes de la CDAO tenue à Bamako. Le but de cette réunion était de renforcer la capacité organisationnelle des jeunes économistes, donner une nouvelle dynamique au processus d'intégration en cours. La cérémonie a été présidée par le président malien, nous dit notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Ils étaient plus de 300 jeunes venus de 15 pays de la CDAO pour prendre part à cette rencontre internationale placée sous le thème « La jeunesse, fer de lance de l'intégration politico-socio-économique de l'Afrique de l'Ouest ». Amadou Diko,
président de l'Association des jeunes économistes du Mali.
Le thème central de ces assises est très évocateur à ce titre et nous interpelle tous sur les responsabilités qui sont les nôtres dans la construction d'un espace économique sous-régional où faire bon vivre. Nous serons mobilisés autour de ce thème d'imminentes personnalités et des jeunes économistes venus de toute l'Afrique de l'Ouest dans un seul but de promouvoir d'une part la création d'un cadre fédérant toutes les intelligences à même de jouer un rôle déterminant pour l'édification d'une Afrique de l'Ouest intégrée, ouverte au reste du monde et d'autre part de créer une dynamique positive entre les jeunes économistes.
Les débats de Bamako ne doivent pas se limiter aux questions économiques. C'est le souhait de Mahamane Babi, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et de la construction citoyenne du Mali.
J'aimerais inviter les jeunes économistes à se pencher également et de plus en plus sur cette autre thématique qui a été abordée par le président des jeunes économistes, thème qui n'est point antinomique de celle de l'intégration politique et économique. Je veux parler de la lutte contre l'intégrisme et toutes les formes de violence dont les jeunes sont malheureusement à la fois victimes et bourreaux. Notre conviction profonde est que ce qui est encore pire que l'extrémisme et la violence sous toutes ses formes, c'est celle de ne pas préparer notre jeunesse à y faire face.
Les jeunes ouest-africains vont aussi mesurer les chemins parcourus par leur organisation. Les niveaux des organisations des jeunes économiques seront aussi étudiés afin de faciliter la mise en place d'un réseau plus dynamique pour rendre l'intégration sous-régionale plus visible. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Je dis souvent que le monde est dans une hyper-compétitivité qui est effrayante. Réfléchissons. La qualification des cadres, je ne connais aucun pays au monde qui se soit hissé à un niveau appréciable de présence au monde sans ressources qualifiées. Non. Si vous ne le faites pas, si vous y échouiez, vous serez largué. Et peu importera que vous disiez « Ah oui, j'étais colonisé ». Oui, d'autres l'ont été également aussi. Mais aujourd'hui, en tête, avec des taux de croissance à deux chiffres, parce qu'ils sont mis debout dans le vent, dans la tempête, ils ont avancé à la conquête de leur dignité. Vous pouvez faire en sorte que nous soyons autres. Je ne voyais où risque d'aller l'Afrique par rapport à ce qu'elle pourrait réussir. Et elle le réussira grâce à vous. Mettez-vous debout.
La bonne application des recommandations issues des rencontres de Bamako doivent permettre une nette amélioration de leur organisation sous-régionale pour une meilleure intégration entre les jeunes économiques dans l'espace CEDEAO. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Bénin, l'opinion publique s'accorde à penser de plus en plus, nous signale notre correspondante, que les cadres livrés sur le marché manquent de compétences. Le mal viendrait du système éducatif. Reportage de Ginette Fleur à Dandé, à Cotonou.
L'école béninoise a besoin d'être sérieusement repensée si le Bénin tient à retrouver la place de quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, le constat qui se fait est inquiétant et interpelle la conscience des gouvernants sur la qualité des cadres censés travailler au sein de l'administration béninoise dans les prochaines années. Les apprenants s'expriment mal et cela met dangereusement en cause la qualité des enseignants qui animent aujourd'hui le système éducatif. Suivez plus tôt.
Oui, je suis élève en classe de 4e. Je suis le dessin animé. Je suis ça parce que
ça me sonne bien à l'oreille.
Il y a de la rap qui sonne bien à l'oreille. C'est parfait.
Il voulait vivre à lui. Au lieu de se freiner un peu là, il s'est freiné brusquement, il n'a pas pu trouver encore le frein.
L'utilité de la presse béninoise, moi, je ne trouve pas. Parce que ce qu'ils vont dire là, ils se déraillent un peu.
Le programme d'approche par compétences, les grèves perlées, sont entre autres raisons brandies pour expliquer la déchéance du système éducatif. Les enseignants reconnaissent le faible niveau des apprenants, mais pensent que les causes sont bien ailleurs.
C'est réel, mais il vaut mieux ne pas dramatiser la situation. Simplement parce que moi, je n'ai pas commencé l'école à 3 ans. Je n'ai pas commencé l'école à 4 ans, je n'ai pas commencé l'école à 5 ans. Est-ce que l'enfant a l'âge, la maturité de comprendre tout et de pouvoir raisonner comme dans le vieux temps? Les gens n'ont pas eu le temps de comprendre leur langue maternelle. Ils n'ont pas eu le temps de discuter avec les parents, de s'amuser. Au cours de l'amusement, il y a de l'apprentissage. L'enfant apprend beaucoup en s'amusant avec les parents. Et on va directement à l'écriture, les grèves perlées qui tuent. Et tous les ans, l'année scolaire n'est jamais exécutée à 100%. Vous comprenez avec moi que l'enfant passe en classe supérieure, il est clair que cet enfant-là peut avoir des problèmes.
Mieux, certains pensent que la parité tant brandie par les femmes serait l'une des causes primordiales.
Aujourd'hui, pour l'égalité de la femme dans la famille aussi, crée des problèmes que dans les ménages, qu'on arrive à reconnaître l'autorité du père au moment où le père doit parler et la mère tendre, douce, L'enfant peut se recueillir auprès de sa mère et se confier à sa mère.
Mais le fait est là, les jeunes enseignants qui sont aujourd'hui recrutés sont peu formés et ne sont pas aptes à former d'autres jeunes. Le mois de juin est réservé aux différents examens dans le système éducatif au Bénin. Les parents retiennent leur souffle en espérant que les résultats au bout du compte ne soient pas aussi catastrophiques que ceux des années précédentes. De Cotonou, Ginette Fluadondé pour VOA Afrique.
Les recrutements en ligne font, comme on dit, leur petit bonhomme de chemin en Afrique avec de plus en plus de start-up qui se lancent dans ce secteur. En Algérie, Emploitic a lancé un site internet emploitic.com qui se distingue grâce à ses multiples annonces en ligne et la possibilité qu'il donne aux candidats de publier leur CV. John Linden s'est entretenu avec Louaï Jaffer, fondateur d'Emploitic.com, qui évoque d'abord le climat dans le secteur des TIC.
C'est un secteur qui est très très porteur, hein. Donc je pense comme partout au monde, les ingénieurs en nouvelles technologies, développeurs, architectes réseau, n'ont pas de mal à trouver un emploi. Donc je dirais que sur ce segment-là, il y a plutôt une tension, ce sont les entreprises qui ont du mal à recruter.
Alors, vous êtes une start-up, si je ne m'abuse. Quels sont les problèmes auxquels des entreprises comme la vôtre font face en Afrique et en Algérie particulièrement?
Bon, nous, c'est quand nous sommes une start-up du moins dans l'esprit, parce que l'entreprise a été créée en 2006. Et cet esprit de start-up, de tout remettre en question, d'innovation, nous anime toujours. Après, les problèmes que nous vivons dans notre marché, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes inhérents aux startups en général partout dans le monde. C'est-à-dire que des besoins de financement qui ne sont pas toujours adaptés pour ce type d'entreprise. Et puis des besoins de recrutement très importants parce qu'on recrute beaucoup et vite. Donc ça, c'est les problèmes liés à cette position de startup. Après, sur le marché algérien, nous, depuis 2006, bon, l'entreprise évolue très bien. Nous avons une croissance à deux chiffres. Et des fois, nous avons quelques difficultés, comme toutes les entreprises, sur quelques lourdeurs administratives. Mais disons que les principaux problèmes sont plutôt ceux liés aux startups que ceux liés au marché. C'est-à-dire, des fois, du moins c'est notre problème au lancement, sur notre capacité à financer notre croissance.
Quel est le niveau des candidats qui postulent chez vous ?
Aujourd'hui, nous arrivons à répondre, du moins le marché, les candidats arrivent à répondre à la demande des entreprises. 70% des candidats qui sont inscrits sur notre site, ce sont des personnes qui travaillent déjà et qui cherchent une mobilité professionnelle.
À votre avis, que faudra-t-il faire pour résorber le problème du chômage en Afrique de manière générale ?
Ce serait peut-être pas la meilleure personne pour donner un avis sur une question macroéconomique comme ça, de cet ordre-là. Mais en tout cas, nous, ce que nous remarquons, avec nos clients, mais avec nous-mêmes, quand les initiatives sont libérées, quand on crée le marché des idées et du savoir, on ne peut que gagner en emploi et en création de richesse. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ma vision de la création de l'emploi.
Un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous ?
Un conseil ne serait pas suffisant. Nous, ce qu'on aimerait leur dire, c'est d'abord, il faut croire en son idée, être motivé, avoir une sorte d'abnégation, et ensuite s'entourer de personnes compétentes. Et je dirais que les trois conseils, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui fait l'entreprise.
C'était Louaï Jaffer, fondateur d'Emploitic.com en Algérie.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou en direct de Bamako au Mali. Les amis, je suis en train de faire des émissions en direct, en live. N'hésitez pas, appelez-nous au 001-202-619-3140. Envoyez-nous vos SMS au 001-703-350-37-31. RM Show en direct de Bamako au Mali. Cette semaine, on est ensemble. Suivez-nous aussi en direct, en live sur notre page Facebook VOA Afrique. Ah oui, ça chauffe et ça cartonne ici, VOA Afrique, en direct de Bamako au Mali avec votre gars Roger Muntou de RM Show. Peace Africa!
VOA Afrique en direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Arnold Butson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.